Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. L'actualité de l'Église de cette édition sera notamment marquée par le compte-rendu des activités du pape de la semaine. Le Saint-Père, qui est toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli de Rome depuis vendredi 14 février. François a passé une nuit paisible, bien qu'il ait présenté en début d'après-midi du vendredi une crise isolée de bronchospasme suivie d'un épisode de vomissement avec inhalation et aggravation soudaine de l'état respiratoire. Vous aurez tout à l'heure les détails sur la mise à jour faite par la salle de presse du Saint-Siège sur l'état de santé du pape François avant de nous rendre au Cameroun où s'est conclu jeudi 27 février le 8e Conseil national des communicateurs catholiques de ce pays. Après l'actualité sociopolitique africaine et la méditation avec les lectures du 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, nous accorderons la parole à notre invité du jour, le père Donald Zagoré, analyste politique ivoirien, qui nous parlera de la contribution des évêques de la CERAO, conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, dont la promotion du vivre ensemble des populations de la sous-région ouest africaine.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Ouvrons l'actualité de l'Église de cette édition par la semaine du pape, le compte-rendu des activités du Saint-Père de cette semaine, toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli de Rome. Parole à Fabrice Baguendekere.
Oui Christian, au 15e jour de son hospitalisation, l'état clinique du Saint-Père continue de s'améliorer. Dans les bulletins de santé diffusés vendredi soir, il était annoncé que le souverain pontife avait présenté en début d'après-midi une crise isolée des bronchospasmes suivie d'un épisode de vomissement avec inhalation et aggravation soudaine de l'état respiratoire. Après une aspiration des bronches, le pape a commencé une ventilation mécanique non invasive avec une bonne réponse sur les échanges gazeux. On apprenait par la suite que grâce à la ventilation, les valeurs d'échanges gazeux étaient revenues à celles précédentes à la crise. Restant toujours alerte et conscient, rapportait le bulletin médical de vendredi soir, le pape a collaboré aux manœuvres thérapeutiques. Le matin de samedi, la salle de presse du Saint-Siège a annoncé que la nuit s'était passée paisiblement et que le pape se repose. En raison de l'hospitalisation du pape François, c'est le cardinal Angelo de Donatis, pénitencier majeur et délégué du pape François, qui présidera mercredi 5 mars, mercredi des cendres, jour de l'entrée en carême, la liturgie stationnaire dans l'église de Saint-Anselme sur la colline de l'Aventin. Elle sera suivie de la procession pénitentielle vers la basilique de Sainte-Sabine, a annoncé vendredi le bureau des célébrations liturgiques du Saint-Siège. La mobilisation autour du pape ne faiblit pas. L'Église de par le monde organise des moments de prière pour le rétablissement de François. À Rome, depuis lundi, les cardinaux résidents à Rome, avec tous les collaborateurs de la curie romaine et du diocèse de Rome, se réunissent sur la place Saint-Pierre à 21h pour la récitation du Saint-Rosaire en faveur de la santé du Saint-Père, avec une très forte participation des pèlerins présents dans la cité éternelle. Cette initiative aura désormais lieu chaque jour jusqu'au soulagement complet du pape. Ils sont également nombreux les fidèles qui se rendent dans la cour de l'hôpital Gemelli où est hospitalisé le Saint-Père. Ici aussi, l'établissement a pris l'engagement d'une heure d'adoration, une messe à 13h et un temps de chapelet l'après-midi pendant tous les séjours du souverain pontife. Dans sa catéchèse préparée pour l'audience générale du 26 février, le pape a poursuivi son cycle sur l'enfance de Jésus, s'arrêtant sur la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, avec une attention particulière aux figures d'Anne, mère du prophète Samuel et du vieillard Siméon, qui a su reconnaître dans l'enfant Jésus le salut. François nous appelle à imiter Siméon et Anne, ces pèlerins de l'espérance qui ont des yeux clairs, capables de voir au-delà des apparences, qui savent flairer la présence de Dieu dans la petitesse, qui savent accueillir avec joie la visite de Dieu et raviver l'espérance dans les cœurs de leurs frères et sœurs. Et dans son message de carême publié mardi 25 février, le pape François, reprenant le thème du jubilé, pèlerin d'espérance, invite l'Église tout entière à la conversion. Chaque chrétien doit prendre conscience de sa situation de pèlerin et marcher avec les autres enfants des dieux vers la grande promesse, la vie éternelle, écrit le pape. François explicite trois appels à la conversion que la miséricorde des dieux adresse à tous en tant qu'individu comme en tant que communauté pour cette traversée. le pèlerinage, la synodalité et l'espérance.
Merci Fabrice. La mobilisation autour du pape ne faiblit pas. L'Église dans plusieurs pays du monde continue d'organiser des moments de prière pour le rétablissement du pape François. Samedi 1er mars, pour la 6e soirée consécutive, c'est au tour du cardinal Claudio Guggerotti, préfet du dicastère pour les églises orientales, de présider la récitation du rosaire depuis la basilique Saint-Pierre pour la santé du Saint-Père. La veille, vendredi, ce temps de prière a été présidé par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicastère pour la doctrine de la foi. Une prière que le souverain pontife garde dans son cœur avec le désir qu'elle aille au-delà de lui-même, en s'élevant aussi pour tous ceux qui, en ce moment particulier du monde dramatique et souffrant, portent le lourd fardeau de la guerre, de la pauvreté et de la maladie. Le pape s'unit à eux dans la prière, c'est ce qu'a rappelé le cardinal Fernandez lors de la veillée de prière pour la santé du pape François. Les communicateurs catholiques camerounais ont clôturé jeudi 27 février, au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun à Yaoundé, les travaux de leur 8e conseil national autour du thème « Communiquer la force de l'espérance au Cameroun dans le cadre de l'année jubilaire et électorale avec les moyens modernes de communication ». L'événement, démarré le 24 février, a été marqué également par la célébration des 10 ans de prouesses communicationnelles réalisées sous la houlette de Mgr Sosthène Léopold Bayemi, président de la Commission épiscopale pour la communication catholique au Cameroun. Suivant le compte-rendu de Paul Valéry Mendogo.
4 jours de travaux auront donc suffi aux communicateurs catholiques du Cameroun pour s'outiller en pratique communicationnelle susceptible d'aider le peuple camerounais à tenir une élection présidentielle pacifique, fructueuse et transparente et de vivre à fond l'espérance. Mgr Sosthène Bayemi a dit merci à tous ses collaborateurs pour la tenue fructueuse du 8e conseil et ses 10e anniversaire dans une dynamique du donner et du recevoir.
Les 10 ans de service, certes, mais 10 ans d'apprentissage et d'approfondissement, 10 ans de compréhension du mystère qu'est l'Église quand il faut la présenter au monde. Donc à la fin, c'est vraiment une action de grâce.
Dans son mot de clôture du 8e Conseil national des communicateurs catholiques, le secrétaire général à la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Mgr Paul Niaga, a noté que les communicateurs ont exploré les défis et les opportunités du processus électoral au Cameroun en soulignant l'importance de promouvoir un climat de liberté et de paix avant, pendant et après les élections. À l'issue des travaux, d'importantes résolutions ont été prises, entre autres, chaque diocèse devra s'engager, s'impliquer davantage dans la promotion du journal L'Effort camerounais et la vulgarisation des recommandations des évêques, recommandations relatives à l'élection présidentielle. Paul Valéry Mondogo, depuis Yaoundé, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Près de 400 personnes sont mortes et plus d'1,5 million ont été affectées par les inondations provoquées par des pluies exceptionnelles en 2024 au Niger, selon un bilan définitif annoncé samedi par les autorités. Au cours de l'année 2024, les inondations ont causé la mort de 396 personnes, a indiqué le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, ajoutant que plus de 200 000 ménages, soit 1 526 653 personnes, ont été sinistrés. Les intempéries ont également fait 405 blessés, a souligné le ministre qui s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile. L'ex-président sénégalais Macky Sall, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024, sera appelé devant la justice en raison de ses actes, qualifiés comme extrêmement graves dans la gestion du Sénégal. C'est ce qu'a affirmé vendredi le gouvernement sénégalais, qu'il accuse d'être responsable des faux chiffres révélés dans un récent rapport sur les finances publiques. Si des poursuites sont engagées contre Macky Sall, ce serait la première fois qu'un ancien chef d'État est traduit en justice dans le cadre de ses anciennes fonctions depuis l'indépendance en 1960 de ce pays ouest-africain. Le père jésuite Victor Aswad nous introduit à la méditation avec les lectures du 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C.
Chers frères et sœurs, Les lectures et l'évangile de ce dimanche utilisent deux registres différents de langage qu'il est important de repérer. C'est d'abord le langage de la sagesse humaine exprimé en proverbe ou en parabole. C'est ensuite le langage de la sagesse divine que saint Paul utilise dans son épître. Considérons d'abord le langage de la sagesse humaine. Nous le trouvons dans la lecture du livre de Ben Sira le Sage et dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui. Il utilise le bagage de l'expérience humaine exprimé par des proverbes pour en tirer des leçons ou enseignements de vie. C'est comme lorsque nous nous trouvons auprès de nos aînés et que nous leur demandons ce que la vie leur a enseigné. Alors, ils peuvent nous transmettre des proverbes comme celui-ci. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ou encore, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. De son côté, le langage de la parabole utilise le récit et l'image. Il veut frapper l'imagination pour nous aider à saisir des vérités profondes. Ainsi, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Ou encore, qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? En méditant ces paraboles ou récits imagés, nous tirons alors des leçons de vie. Ainsi, dans ces paraboles, nous comprenons la nécessité d'être les disciples d'un bon maître qui soit clairvoyant, ou encore l'importance de reconnaître ses propres défauts avant de chercher à juger ou accuser l'autre. Une magnifique leçon de vie tirée de la sagesse humaine. Nous en arrivons au langage de la sagesse de Dieu, exprimé dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens. C'est le langage de la foi, en cela qu'il dépasse la logique humaine ou terrestre pour nous faire percevoir les réalités de l'au-delà. Ainsi, il perçoit qu'à la fin des temps, ce qui est périssable ne le sera plus, et ce qui est mortel deviendra immortel. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut s'écrier « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ce langage nous est révélé par la foi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Dieu s'adresse à nous à travers les mots de la sagesse humaine, tout comme à travers les mots de la sagesse divine. Ces deux sagesses sont appelées à se conjuguer, l'une conduisant à l'autre. Mais elles s'opposent parfois aussi lorsque la sagesse humaine ne débouche pas sur les vertus de la foi, de la charité et de l'espérance. Il nous revient ainsi de discerner si la sagesse humaine conduit à Dieu ou si, au contraire, elle nous en éloigne. À cet égard, la première épître de saint Paul aux Corinthiens peut nous guider grandement. En définitive, la méditation des lectures et l'évangile d'aujourd'hui nous invitent à passer de l'expérience à la sagesse, de l'observation à la réflexion, de l'extériorité à l'intériorité, du temporel à l'intemporel, et de la logique humaine à la logique divine. Demandons au Seigneur de nous laisser toucher par ces lectures et cet évangile pour pouvoir entreprendre, chacun et chacune d'entre nous, ce chemin de croissance et de vie.
Après avoir évoqué les conséquences de la rupture AES-CDAO dans la suite de l'entretien accordé à Radio Vatican, le père Donald Zagoré, analyste politique ivoirien, met un accent particulier sur ce que pourrait être la contribution des évêques de la CRAO, conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, pour un vivre ensemble des populations de la sous-région ouest africaine. Les évêques ouest-africains continueront d'exhorter à la paix et à l'unité, mais il appartiendra aux politiques de prendre conscience de leur véritable mission pour leur peuple, a souligné le prêtre ivoirien.
Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'être au service traduction de la RECO à Sirao. Et j'ai participé quand même à quelques assemblées des évêques de la sous-région. Les évêques ont toujours été dans leur rôle, hein. Voilà. Et les évêques ont toujours été dans leur rôle d'appeler les politiques à plus de sagesse. Voilà. Ils n'ont jamais manqué de le faire. Mais, vous savez, comme dit Benoît XVI, l'Église n'apporte pas de solutions techniques. L'Église n'impose pas de solutions politiques. C'est là que se joue la complexité. L'Église est claire. L'Église invite à la sagesse, l'Église invite à l'unité. Et ça, les évêques de la sous-région l'ont fait. Ils n'ont pas cessé de le faire. Que ce soit au niveau des différentes conférences épiscopales, que ce soit au niveau de la RECO à Serrao. Ils ont lancé des appels, ils ont lancé des appels à l'unité. Moi, je me souviens, la dernière assemblée à laquelle j'ai participé, c'était à Ouagadougou. Alors, les évêques ont lancé un message fort aux dirigeants africains de la sous-région sur cette question de sécurité, de migration, de cette jeunesse qui se perd, qui est enrôlée par le terrorisme. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Elle ne peut que continuer dans cette dynamique, sensibiliser, évangéliser et prier pour que leur cœur soit touché et que les politiques prennent conscience. Le problème de l'Afrique, il faut le dire, et je le dis depuis quelques années, à 80%, c'est un problème politique. Le jour où on va soigner le politique en Afrique, le jour où on va guérir le politique en Afrique, l'Afrique prendra son envol. Tout se résume aux crises politiques, aux décisions de nos politiques, aux décisions de nos politiciens et à leur pacte, à leurs engagements qui, parfois, sont loin de servir la cause du peuple.
Les évêques ouest-africains continueront à exhorter à l'unité et à la paix.
Les évêques montrent le chemin. Mais comme je l'ai dit, l'appel à l'unité, le témoignage d'unité ne peut que être une action de sensibilisation parce que ce sont les décisions politiques qui créent la division. Donc les évêques vont continuer à les appeler à la sagesse, les évêques vont continuer à donner le témoignage qu'il faut, mais à la fin, il faut prendre des décisions tangibles et concrètes. La CDAO a été créée pour unir les peuples de la sous-région. Aujourd'hui, ces peuples sont divisés, mais c'est une décision politique. Le rôle des évêques, c'est de rester dans leur logique. C'est de rester dans leur tenue de pasteur, c'est de rester dans leur tenue d'homme de Dieu, en gardant le langage ou le message qui leur est propre, c'est le message d'unité, mais ils ne pourront pas aller plus loin que ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est prier pour que les cœurs se convertissent. Et puis, je suis sûr qu'il y a des médiations personnelles, individuelles qui se font, un peu à l'africaine. Mais la décision revient aux politiques. C'est aux politiques de faire un sursaut d'orgueil et pour sortir notre sous-région de cette crise.
Alors Père, au regard de tout ce que nous venons d'évoquer, quelle espérance aujourd'hui pour l'Afrique de l'Ouest?
La question de l'espérance est une question assez importante et un élément important de notre foi, c'est de ne pas désespérer. Je renvoie les gens au message que le pape Benoît XVI a donné en Afrique en 2011, si je ne me trompe pas, quand il est venu lancer Afrique Chemonus. Il nous a donné l'image d'une espérance qui est vraiment une espérance active. D'une part, on ne perd pas nos racines en Dieu, on ne perd pas de vue que le salut vient de Dieu, voilà. Et c'est le Seigneur seul qui donnera le salut vrai et authentique. Mais d'autre part, nous sommes appelés aussi à collaborer à la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est important. Cette collaboration à la grâce de Dieu est importante. Il faudrait que nos politiques, comme le pape l'a dit, d'abord prennent conscience de tout le mal qu'ils font à leur population par leurs égos politiques. Cette prise de conscience, elle est importante parce qu'elle va mettre sur la table, elle va les mettre devant leurs responsabilités. On a une responsabilité vis-à-vis de nos populations, c'est de travailler à leur bonheur, c'est de travailler à leur épanouissement. Il faut d'abord cette prise de conscience. Et à la suite de cette prise de conscience, des actes viendront. Et les populations aussi doivent être de plus en plus responsables. Il faut que nos populations aussi veillent sur leur vie. C'est à eux de prendre leurs responsabilités, pas dans la violence, parce que la violence n'a jamais résolu le problème. Mais une responsabilité qui oblige quelque part nos politiques à marcher sur le droit chemin. Donc à la fois, il faut garder cette espérance en Dieu, il faut continuer à prier, mais en même temps, cette espérance doit nous conduire à des actes forts, à des actes qui amènent au changement, à la transformation. Si on prie et qu'on n'est pas converti, ça ne porte pas de fruits, mais la prière doit pouvoir nous conduire à la conversion, à la transformation. C'est cette transformation intérieure de chaque homme et surtout du politique africain que nous attendons pour que nos continents, pour que notre sous-région prenne un élan meilleur.
Vous venez de suivre le père Donald Zagoré, analyste politique ivoirien, interrogé par Françoise Niamia. La suite de cet entretien vous sera proposée dans nos prochaines éditions.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, très chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Christian Losambe qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et restez branchés sur nos programmes.